Alors ce soir, nous allons débuter une toute autre sorte d'étude. On va plonger nos regards dans le livre des juges. Le livre des juges est un livre fort intéressant. Beaucoup de choses d'enseignements à en tirer. Mais quand moi je pense au livre des juges, si on peut essayer de condenser cela un peu en une phrase, c'est de voir le chaos qui résulte de la désobéissance, du compromis, de l'abandon et finalement de l'apostasie. Et c'est effrayant, quelque part, de voir comment si rapidement eh bien, les enfants de Dieu peuvent se détacher de lui, comment d'une génération à l'autre, il peut y avoir des changements si radicaux dans la vie d'un peuple. Mais le livre des juges, oui, c'est un livre qui retrace donc une partie de l'histoire du peuple d'Israël. Et vous le savez, dans notre Bible, les livres sont catégorisés, classés par catégorie. On a le Pentateuque, les cinq premiers livres de Moïse. Ensuite, on a des livres historiques, comme celui des juges, et Josué également. Des livres qu'on appelle sapientos, c'est-à-dire de sagesse. Les livres comme Proverbes, Ecclésiaste, les livres prophétiques. Dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. N'oublions pas que dans le Nouveau Testament aussi, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique, tout comme le livre des Actes, c'est un livre historique. Et puis on a les évangiles, qui sont vraiment une catégorie vraiment entièrement à part, même dans leur style. Et puis les épîtres qui sont riches en enseignements pour les chrétiens et pour l'Église. Mais pour ce qui est des livres des juges, eh bien, on n'a pas vraiment d'indications sur qui est l'auteur de ce livre. Certains livres, on sait qui les a écrits parce que le nom est indiqué. Parfois, c'est un mystère. Parfois, c'est un mystère, mais on a encore quand même quelques indices qui nous permettent de deviner. Donc, pour le livre des juges, certains indices nous font suggérer que ce soit Samuel, qui ait compilé toutes ces archives historiques de ses prédécesseurs. Parce qu'en effet, Samuel lui-même était aussi un juge, même considéré comme le dernier juge en Israël, parce que il est vraiment à la transition entre cette période des juges et l'établissement de la royauté en Israël. Bon, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 15, il nous est dit que justement que Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Et donc on sait que il y a eu la royauté qui a été instaurée pendant sa vie. Donc c'est vraiment, à l'époque de Samuel, c'est une époque charnière, entre cette période des juges et la période de la royauté. Et c'est une période donc qui s'étend sur environ 350 ans. On n'a pas l'impression quand on lit comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment d'indication de date. Dans d'autres livres, on sait, ben, oui, à l'époque de tel roi et tel roi, et on peut situer historiquement, mais le livre des juges, c'est cela. C'est une période de 350 ans environ, et pour essayer de déterminer un peu, même parfois, la chronologie des événements, c'est pas toujours évident. Mais on sait que c'est une période qui était avant la période des rois. À plusieurs reprises, justement, dans le livre des juges, on a cette mention-là. En ces jours-là, Israël n'avait pas de roi. Donc on sait que c'est après la période des juges, c'est pendant l'époque où il y a un roi, que quelqu'un a écrit le livre des juges. Et puisque Samuel était lui-même donc le dernier juge, beaucoup, beaucoup de commentateurs bibliques, eh bien, estiment que c'est Samuel qui a rédigé ce livre. Mais le contexte de ce livre est important. Ce livre décrit des événements qui sont liés au livre juste avant, n'est-ce pas? Le livre de Josué. Là aussi, un livre historique. Le livre de Josué, je vous rappelle, retrace eh bien, la conquête du pays de Canaan, la conquête de la terre promise. Et le livre des juges, eh bien, on arrive juste à peu près à cette période-là où pratiquement tout a été conquis. Et Israël, une fois installé dans ce pays promis, ils sont confrontés à un problème difficile qui va être désastreux même à tout point de vue. Parce que ça a plongé la nation d'Israël dans de l'anarchie, dans du chaos, dans l'apostasie, dans le rejet de Dieu. Et ça a amené le peuple de Dieu à accomplir des actes ignobles. Et on verra même que même parmi ces hommes qui ont servi l'Éternel en tant que juges, ils n'ont pas toujours fait les bonnes choses, pas toujours pris les bonnes décisions. Et donc c'est un livre qui est assez tragique hein, quand on le lit. Il y a des récits qui sont durs, des récits atroces, choquants même. Et cela doit nous alerter, doit nous ouvrir les yeux, encore une fois, sur combien, comme le psalmiste le dit hein, dans le psaume 1er, verset 6, hein, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et ce livre des juges, c'est ce que l'on voit. C'est que quand l'être humain choisit la voie du péché, cela l'amène à la ruine. Et donc, au cours de cette étude, bien sûr, on aura l'occasion d'analyser comment, eh bien, une telle situation, comment un peuple qui a connu l'Éternel, qui a vu la main de l'Éternel, qui a été repris plusieurs fois également, comment ce peuple a pu laisser cette situation se produire. Je vais déjà souligner plusieurs versets qu'on peut accepter comme étant des versets clés. Hein, chaque fois dans les livres de la Bible, il y a un verset clé qui est là, qui explique un peu le livre, hein, qui résume un peu le livre. Et ici, j'ai plusieurs versets qui ont retenu mon intention et qui donnent hein, certains indices sur les raisons d'une telle décadence et déchéance spirituelle. Le premier, c'est au chapitre 2. Chapitre 2 du livre des Juges, le verset 11, nous lisons: Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, ils abandonnèrent le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et suivirent Baal et les Astartés. Donc on est vraiment dans une situation où Israël vient de faire la conquête. Dieu leur a largement donné la victoire hein, sur les habitants du pays de Canaan. Et pourtant, quelque chose se produit. Et ces enfants d'Israël vont entièrement se détourner de Dieu. Puis un peu plus loin, versets 18 et 19, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Je retiens également au chapitre 10, les versets 15 et 16. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Et puis finalement, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, ce que l'on voit même juste à travers ces versets, et quand on lira ensemble et étudiera ce livre des juges, on verra que Israël, ayant renoncé à cette mission de conquérir entièrement le pays de Canaan, on voit qu'ils n'ont pas entièrement obéi à l'Éternel. Ils ont obéi en partie. Mais ils n'ont pas fait tout ce que Dieu leur avait demandé de faire. Eh bien, c'est là où on voit les enfants d'Israël, eh bien, tomber à plusieurs reprises dans l'idolâtrie, dans l'immoralité que ces nations pratiquaient. Et à cause de cela, il va en résulter une série de défaites militaires suivies d'une délivrance par une succession de juges. Et les juges Il faut bien comprendre que nous, on a cette notion de terme de juge comme quelqu'un étant un représentant légal qui va trancher des affaires civiles, etc. Le mot juge en hébreu signifie également libérateur, sauveur. Il avait aussi des fonctions comme ça de juge, mais l'idée principale, c'était que ces juges étaient des meneurs, des chefs qui ont aidé la nation d'Israël à surmonter, hein, les différentes crises, tant sur le plan militaire, mais aussi spirituel. Parce que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler par rapport au livre des juges, et même par rapport à la conquête que l'on a vue dans le livre de Josué, c'est qu'il y a un combat spirituel qui est réel. Hein, et Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6, vous connaissez bien ce passage, Éphésiens 6, versets 12 à 13, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce livre des juges, c'est le récit de lutte spirituelle. On constate dans ce livre des juges un certain cycle. On a déjà entendu cette expression, l'histoire se répète. Mais là, pendant cette période d'environ 350 ans, c'est ce que l'on va voir. C'est un cycle récurrent, tout d'abord du péché d'Israël, qui faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, suivi du châtiment. Châtiment où le peuple d'Israël subissait les attaques de l'ennemi, des oppresseurs, il se retrouvait dans une servitude envers les nations païennes. S'ensuivait le peuple d'Israël qui, Dieu éternel, sauve-nous, aide-nous. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, eh bien apportait la délivrance, le salut à travers la main de juges. Et comme on le voit après, ça n'a pas entièrement changé le cœur de la nation d'Israël. Rappelez-vous, en verset 19 de Juges 2, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Donc non seulement c'était un cycle récurrent, mais en plus, les péchés étaient de plus en plus graves. L'immoralité était de plus en plus grande. Et ils allaient après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient. Nous comprenons, et souvent nous luttons avec ça en tant que chrétiens, de persévérer dans la foi. On comprend combien d'efforts ça requiert de tenir forme, ferme dans la voie que l'on veut suivre pour honorer le Seigneur. Mais ici, on a un peuple et des générations qui persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Il est intéressant de noter qu'entre le livre de Josué et le livre des Juges, c'est un grand contraste. Les deux livres sont liés, historiquement, sont liés, n'est-ce pas? Mais dans le livre de Josué, par exemple, on va observer, eh bien que déjà, il y a un homme choisi par Dieu, qui va mener, diriger le pays, qui va apporter l'unité entre les tribus et mener cette conquête du pays de Canaan. Dans le livre des Juges, qu'est-ce que l'on voit? Il n'y a pas un chef stable pour la nation. On a des tribus qui sont divisées, des tribus qui vont même se chamailler, parce que il n'y a plus cet homme dirigé par le Seigneur pour mener cette nation. Dans le livre de Josué, on voit effectivement Israël faire la conquête des terres, et dans le livre des Juges, eh bien, ces terres sont reprises par les Cananéens. Dans le livre de Josué, on voit que l'accent est mis sur l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu pour avoir la victoire, pour avoir la liberté. Et dans le livre des Juges, eh bien, c'est tout le contraire. On voit comment la désobéissance mène à la défaite et mène, eh bien, à la dépravation dans le péché. On pourrait se demander effectivement hein, pourquoi étudier ce livre en particulier. Je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire entre le livre des juges et même notre société moderne aujourd'hui. Énormément de parallèles à faire entre la nation d'Israël et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On peut voir à travers ce livre des juges que même si les menaces spirituelles hein, venaient beaucoup de l'extérieur et qu'ils étaient bien réels, on voit surtout que le problème le plus dangereux qui existait là pour la nation d'Israël, c'était le fait que elle-même avait choisi, elle-même avait désiré, elle-même avait pris la voie du péché plutôt que celui de l'obéissance. Et de voir qu'une obéissance incomplète, avec un attrait parfois même sentimental, physique, pour les personnes inconverties et pour Israël, pour les personnes païennes, pour leur mode de vie, pour leur religion, a fait en sorte que, eh bien, ils se sont mis dans le compromis, un compromis spirituel qui a détourné ce peuple de Dieu. Le livre des Juges, effectivement, expose les conséquences de cette tendance humaine. Et je ne suis pas là à dire à pointer du doigt et puis à dire hein, ah c'est mauvais mauvais peuple d'Israël, parce que tellement souvent il nous arrive à même nous aussi d'agir de cette façon-là, de se fier davantage à nous-mêmes qu'à Dieu, parfois même souvent de déterminer nous-mêmes ce qui est bon, ce qui paraît être juste, plutôt que de regarder aux Écritures et de juger par les Écritures ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce livre révèle effectivement la véritable nature des hommes lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, lorsqu'ils font ce choix de ne pas obéir entièrement, lorsqu'ils font ce choix du compromis, lorsqu'ils font ce choix de s'éloigner de Dieu. Et l'ensemble du livre, eh bien, vient comme une mise en garde. C'est une mise en garde très forte contre le péché, contre l'idolâtrie, oui, mais ça démontre aussi que cet épanouissement que beaucoup de gens recherchent, et même que beaucoup de chrétiens recherchent, ne peut se faire qu'en suivant l'Éternel. Notre frère Philippe a prêché dimanche hein, sur le fait que nous devons nous appliquer à chercher, appliquer notre cœur à chercher l'Éternel. Et c'est une des choses qui manquait dans cette nation d'Israël. Et bien que les juges aient été des personnes imparfaites, et on le verra, n'y a qu'à mentionner Samson et on comprend vite, n'est-ce pas? Mais on comprend que même malgré l'imperfection et même malgré les mauvais choix, Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu, il est capable d'employer même ceux que nous pourrions considérer comme des personnes, alors pas du tout faites pour ce travail-là, pour cette œuvre-là. De voir même des personnes qui, on pourrait dire, hein, ne répondent pas aux requis pour hein, une telle œuvre. Mais quand c'est Dieu qui agit à travers ces personnes-là, de grandes choses se produisent. Même s'ils étaient imparfaits, ils ont agi avec foi. Il y aura effectivement quelques questions intéressantes et importantes qu'il nous faudra soulever au cours de cette étude dans le livre des juges. Comme j'ai dit, c'est un livre dur, atroce, choquant, violent. Et on peut se poser la question, hein, comment est-ce qu'on va faire pour même considérer ces actes de violence qui ont été commis par des hommes contre leurs ennemis, même parfois contre leurs compatriotes, parfois avec l'approbation de Dieu, parfois sans l'approbation de Dieu. De voir comment Dieu se sert d'hommes, de femmes qui tantôt accomplissent la volonté de Dieu et tantôt bien cèdent à leurs propres pulsions pécheresses. Et il y en a eu. Ou même cette fameuse question hein, du vœu de Jephté par rapport à sa fille. Donc il y a énormément de choses à voir dans ce livre des juges. Et donc ce soir, je voulais justement juste faire cette introduction sur ce livre, de voir comment eh bien Dieu va employer ces douzaines de personnes. On a Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Abimélec, Tola, Jaïr, Jephté, Ibsan, Elon, Abdon, Samson. Et ce qui est intéressant, c'est que il y en a, eh bien, on a plusieurs chapitres sur eux, un chapitre. D'autres, c'est juste un verset. Okay? Il y a parmi ces juges, certains, on ne connaît pas grand-chose, finalement, de ce qu'ils ont fait, de qui ils étaient. Mais une chose est certaine, c'est que l'Éternel est celui qui les avait placés en Israël pour venir en aide à cette nation qui, malgré les grâces et les bontés de Dieu, s'est laissé attirer par le péché. Alors effectivement, comment ne pas pouvoir faire des parallèles avec notre société aujourd'hui ou même avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, hein, qui estiment que oui, bon, moi je vis ma vie chrétienne comme il me semble. Oui, il a dit ça dans la Bible, mais je crois que bon, aujourd'hui, hein, on a une période qui est différente, et puis parce que les choses sont différentes aujourd'hui, on ne peut pas vraiment appliquer ou suivre ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui. Et on verra à travers l'étude de ce livre combien cette façon de penser, cette façon de voir la parole de Dieu et même de considérer Dieu lui-même, et pas simplement faux, mais extrêmement dangereux. Et comme je dis, ce livre, c'est un livre d'avertissement, de veiller à ce que notre vie soit menée par l'Éternel, par sa parole. C'est lui l'ultime juge, hein, dans tous ces récits, c'est lui qui est l'ultime juge. Mais de voir que il y a des moments où Dieu va agir avec grâce et avec miséricorde, et des moments où, par amour pour son peuple, il va les laisser s'empêtrer dans le péché. Il va les laisser subir les conséquences de leur choix. Et donc, voyons toutes ces choses, hein, comme un rappel pour nous également que nous devons veiller. Veillez sur nous-mêmes, sur notre âme, veillons sur les uns sur les autres et encourageons-nous, hein, à suivre la parole de l'Éternel, ses commandements, et d'y veiller en s'assurant d'être vraiment dans la volonté de Dieu et de faire les choses entièrement. On a vu juste dans ces quelques versets comment ceux qui s'étaient détournés de Dieu persévéraient dans leur mauvaise voie. Nous, nous devons persévérer dans la bonne voie. Et nous devons tenir ferme, et nous devons veiller. Et Dieu voulant, donc on aura l'occasion la prochaine fois de vraiment entamer cette étude dans le livre des juges, et de commencer à en tirer les leçons spirituelles pour nous, même aujourd'hui, en 21e siècle.